je pense que c'est d'abord et avant tout aux médias, aux journalistes entre eux, de pouvoir faire d'une sorte de autorégulation.
L'emballement médiatique a été assez largement, quelque part, accéléré par les médias. Donc si maintenant vous regrettez la fin de l'enquête, alors même que vous n'avez fait, vous tous, que les titres, les uns après les autres, sur l'affaire de Rugy, il y a une forme d'incohérence dans ce que vous me dites là.
Lorsque nous ne sommes pas d'accord avec la façon avec laquelle une information est transcrite, lorsque des erreurs aussi énormes ou des montages comme ceux qu'on a vus, dans mon cas, il s'agissait d'un bout de phrase assorti d'applaudissements pour faire croire que c'était bien ça que j'avais dit, au point que même le CSA est sorti de la naphtaline et s'est réveillé pour condamner la pratique, eh bien nous n'avons aucun recours que la justice, c'est-à-dire un rapport de violence, parce qu'il s'agit de punir.
Comment est-ce que Roman Pawlowski peut se défendre de cela? La parole lui est interdite. En fait, le problème, c'est que cette femme vient demander une condamnation médiatique alors que la justice ne peut plus être saisie.
Je crois qu'il ne faut pas qu'il y ait de tribunal médiatique. Et il est tout aussi important que des gens qui sont mis en accusation, sur qui pèsent des soupçons, puissent se défendre.
Régulièrement et depuis plusieurs années maintenant, la presse est accusée de se transformer en tribunal médiatique. Les dernières affaires Enel et Polanski en sont un dernier exemple. Dans un contexte de méfiance, voire de défiance envers les médias, lundi sera lancé officiellement un conseil de déontologie journalistique et de médiation, une instance tripartite qui impliquera à la fois journalistes, médias et public. Objectif de ce conseil, garantir aux citoyens l'accès à une information de qualité. Est-ce une réponse à l'accusation de tribunal médiatique ou bien la création de ce qu'on pourrait appeler un tribunal de la presse? Deux invités ce matin pour discuter de cette question. Kathleen Grosset, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Vous êtes journaliste, vous êtes vice-présidente de l'Observatoire de déontologie de l'information, qui est cette association qui travaille précisément à la mise en place du conseil de déontologie journalistique et de médiation. Vous êtes par ailleurs la présidente de la Fédération française des agences de presse. Et puis avec nous ce matin également, Alexis Lévrier, bonjour.
Bonjour.
Historien des médias, maître de conférences à l'Université de Reims. Vous êtes également chercheur associé au GRIPIC, qui dépend du CELSA, à la Sorbonne Université. On va commencer avec vous, Alexis Lévrier, parce que vous avez publié, il y a quelques jours de cela, dans Le Monde, une tribune contre l'expression du tribunal médiatique, dont vous dites que c'est un piège. Pour quelle raison ?
C'est un piège parce que c'est fait pour mettre tous les journaux sur le même plan, le travail de tous les journalistes, de les frapper du même discrédit. Et puis ça crée une ambiguïté entre ce qui relève des réseaux sociaux, donc ce que n'importe qui peut produire comme contenu sur les réseaux sociaux, et des enquêtes journalistiques qui, elles, souvent sont irréprochables. Et je citais ceux qui ont utilisé ce cas-là. Pour François de Rugy, il y a eu Sibeth Ndiaye qu'on vient d'entendre. Il y a eu également l'avocat de Roman Polanski. À chaque fois, ça fait suite à des enquêtes journalistiques qui sont irréprochables, en tout cas qui sont de qualité. Et le problème, c'est que souvent, ce que je disais à la fin de la tribune, ce tribunal en amène un autre. Et notamment, je citais Jean-Luc Mélenchon, qui lui...
Qu'on a aussi entendu dans ce moment.
Qu'on a également entendu, et qui lui souhaitait, pour répondre au tribunal médiatique, la création d'un tribunal professionnel des médias, où l'on jugerait comme ça les journalistes, pour leur dire ça c'est pas bien, vous méritez une sanction.
Vous écrivez quand même parler de tribunal médiatique et sans fondement lorsqu'un titre de presse révèle des informations d'intérêt public au terme d'une investigation rigoureuse. Alors quand est-ce que c'est fondé de parler des tribunaux médiatiques, Alexis Lévrier ?
Moi, je pense que cette expression,
il ne
faut pas l'employer. Il ne faut pas l'employer parce que c'est beaucoup trop ambigu et que surtout, il y a le journalisme des faits, de l'investigation, qui est irréprochable très souvent. Et puis, il y a le journalisme des éditorialistes qui, lui, peut être plus sujet à caution. Et il y a tout ce qui relève des réseaux sociaux qui fonctionne sur une mécanique de la délation. Donc s'il fallait parler de tribunal médiatique, d'ailleurs je pense que notre discussion pourra porter justement comment réguler les réseaux sociaux. Ça me paraît beaucoup plus urgent que de réguler le journalisme. Bon, on peut toujours améliorer le fonctionnement du journalisme, mais les journalistes dans leur travail, ils obéissent déjà à des chartes et doivent rendre des comptes à leur rédaction, de même qu'à leurs lecteurs. Sur Twitter, sur Facebook, vous pouvez propager n'importe quel contenu, n'importe quelle fake news, et personne, ni même ce nouveau conseil-là, ne viendra vous obliger à vous en expliquer, et ça, c'est beaucoup plus problématique.
Alors, avant de parler de ce conseil de déontologie des médias, Kathleen Grosset, un mot de cette expression de tribunal médiatique et sur la tribune d'Alexis Lévrier que vous avez lue, et que vous avez d'ailleurs sous les yeux. J'ai l'impression que ça va être un commentaire de texte assez précis.
Non.
Il y a du rouge un peu partout.
C'est pour faire ressortir les réactions et les réflexions que j'ai pu avoir. Je suis assez d'accord, effectivement, le terme de tribunal médiatique est tout à fait impropre, et puis c'est un petit peu la façon de d'accuser. On accuse le messager pour se cacher finalement des faits qui sont reprochés. Donc c'est la meilleure défense étant l'attaque. c'est finalement une fausse défense. Je rebondis également sur les réseaux sociaux parce que
certains disent quand même, pardon de vous interrompre, mais qu'il est nécessaire de protéger la justice des prétentions du tribunal médiatique à lui imposer sa logique et ses valeurs. C'est-à-dire que certains se disent que quand même certains journaux, dans certains cas, on va dire, se substituent au bon fonctionnement de la justice. Ça, c'est complètement faux.
Mais la justice peut être saisie pour des cas de diffamation. La justice a son rôle à jouer, bien entendu. Mais il faut absolument séparer la justice de ce qui a pu être écrit, des faits journalistiques. Si quelque chose de faux est écrit, on saisit la justice et on dit il y a diffamation et à ce moment-là il y a une action en justice. Mais on ne dit pas que celui qui l'a écrit, ce n'est pas le journal, ce n'est pas la publication, le journal ou la radio ou la télévision, ce n'est pas cet élément-là qui est le tribunal médiatique. Le tribunal, c'est la loi, c'est pas autre chose. Donc pour moi, ce sont deux choses qui sont vraiment tout à fait séparées. Et que, encore une fois, c'est une attaque facile de dire on est soumis au tribunal médiatique, on ne peut pas se défendre. Si, on peut toujours se défendre.
Je cite un article de Olivia Dufour qui a écrit « Justice et médias, la tentation du populisme », article qu'elle a écrit sur le site Atlantico. Et elle écrit « Le tribunal médiatique a de multiples visages. Il y a celui qui condamne l'innocent quand la procédure judiciaire ne fait que commencer, celui qui, à l'inverse, exige la libération du coupable et parfois, comme dans l'affaire Sauvage, l'obtient, celui qui s'exonère des faits autant que de la raison et de la science pour dénoncer à la vindicte populaire le responsable apparent d'un désordre, enfin celui qui s'improvise en instance suprême de recours sans oublier le tribunal qui condamne les propos d'un avocat dans le prétoire ou celui qui, se croyant au spectacle, critique en public et en direct le déroulement d'un procès. Autant d'exemples. Kathleen Grosset, non, ça n'a pas de fondement pour vous.
Je crois que tout l'intérêt de ce... Je vais prendre un peu la question à l'envers, mais l'intérêt de ce conseil qui va être mis en place, c'est que justement, ça va être un lieu de débat de cette déontologie. Il peut y avoir des dérives déontologiques, et c'est bien pour ça qu'on veut créer ce conseil, de façon à expliquer que le fait publié, l'information publiée, publiée au sens large, hein, l'acte journalistique publié... N'a pas été la fabrication de cette publication n'a pas été faite dans les règles déontologiques. On ne parle pas des faits. Le fait, il est le même. On ne parle pas de la ligne éditoriale non plus, bien entendu. On parle de la façon dont c'est arrivé au fait, c'est-à-dire les dérives, le non-respect des personnes, c'est-à-dire le harcèlement éventuellement, c'est-à-dire toutes les dérives de déontologie. On est bien sur de la déontologie et non pas sur une ligne éditoriale.
Donc il y a bien un lien, comme le faisait Alexis Lévrier, entre cette expression de tribunal médiatique et la création de ce conseil, qui ne se veut pas un tribunal pour autant, Kathleen Grosset.
Qui n'est absolument pas un tribunal. Absolument pas.
Il n'est pas là pour juger ni pour donner des sanctions.
Non, bien entendu, bien entendu.
Alexis Lévrier, sur la création donc de ce conseil.
Moi, j'ai aucun doute sur la volonté de l'ODI, de Patrick Cavenot, qui est un grand historien des médias et qui porte ce projet depuis longtemps, de créer un conseil.
L'ODI, c'est l'Observatoire de l'information.
Voilà, et qui, en fait, milite depuis longtemps pour la création d'un tel conseil qui existe. Hein, il y en a 18 dans les autres pays européens. Donc, ça serait une volonté finalement de normaliser la presse française, qui ne me paraît pas du tout choquant en soi. Le problème, je pense que ça sera difficile de normaliser la presse française.
Parce normaliser la presse française, je vous arrête sur cette expression, non, ça oui, peut faire non, peur non, aussi. Hein.
Oui, mais en fait, de la mettre aux normes européennes.
Ça veut dire
si
la mettre au pas. Ah, d'accord. Pas,
ah non,
non,
justement,
non, surtout pas la mettre au pas.
Pas voyons. Du tout l'idée, mais dans l'esprit, je crois, de beaucoup de sociétés de journalistes, c'est un peu le risque. Et le problème, c'est qu'il y a derrière une histoire singulière du journalisme français. On a, depuis l'Ancien Régime, une volonté régulière du pouvoir politique de mettre au pas la presse, de la museler ou au moins de faire pression sur elle. Or, là, on le voit dans les réactions un petit peu négatives de certaines sociétés de rédacteurs, c'est cette crainte qui s'exprime. Et le problème, c'est que le ministre de la Culture, Franck Riester, avait nommé Emmanuel Hogg pour faire un rapport qui, alors même que l'ODI porte ce projet depuis plus longtemps, a abouti à cette recommandation. Donc, certaines sociétés ont le sentiment qu'une fois de plus, c'est le pouvoir politique qui se mêle du sort des médias.
Alors, il faut quand même faire un petit historique. C'est pas Franck Riester qui a nommé, c'était la ministre d'avant,
Françoise Nyssen,
juste avant son départ, qui avait demandé à Emmanuel Hogg ce rapport, qui fait suite plus ou moins à un rapport qui avait été demandé en 2014, qui avait été rédigé par Marie-Cécile.
Donc c'est une histoire longue.
C'est une longue histoire. C'est absolument pas le pouvoir actuel qui a décidé quoi que ce soit.
Enfin, c'est quand même le pouvoir, quel qu'il soit. Kathleen Grosset. Que ce soit le gouvernement actuel ou que ce soit les gouvernements précédents, ça vient quand même d'une instance gouvernementale. Ça n'est pas les journalistes entre eux qui ont estimé nécessaire de le faire.
Qui demande un rapport. C'est pas le pouvoir qui a demandé la création d'un conseil. Il demande un rapport. L'APCP, qui est l'Association pour la préfiguration d'un conseil de presse, qui est une association qui a été créée il y a une quinzaine d'années, a été créée justement pour lancer l'idée d'un conseil de presse. Il y a une quinzaine d'années. C'était donc bien avant, et c'est une association. Donc ce ne sont pas les pouvoirs publics qui ont demandé quoi que ce soit. C'est une idée qui a fait son chemin. À la suite de l'APCP, l'Observatoire de la déontologie de l'information a été créé. On publie des rapports tous les ans sur les dérives déontologiques
Mais qu'est-ce qui va apporter de plus ce conseil, Kathleen Grosset?
D'abord,
au-delà de sages qui vont se réunir, puisqu'ils n'ont pas de pouvoir de sanction en plus. Donc vous allez donner un avis, c'est quoi?
On va donner la parole au public. Puisque c'est un conseil tripartite, donc il y a...
Journalistes, donc personnes individuelles, mais journalistes ayant la carte de presse, médias, c'est des institutions,
voilà,
et public.
Et public. Et public ayant un intérêt pour la déontologie et l'information, évidemment. Ce conseil va être saisi de plaintes, qu'il étudiera ou pas, suivant que c'est une plainte qui est recevable ou non. Ligne éditoriale, c'est pas recevable, évidemment. On touche pas à une ligne éditoriale.
Prenons des cas concrets. Vous en avez en tête dans quel cas, là, il aurait été bien de saisir ce conseil de déontologie récemment?
Il y a, par exemple, l'affaire du pont de Gonesse, parce que si j'ai bien compris le fonctionnement de ce conseil, ça sera a posteriori. Donc ça n'est pas une censure,
ça sera
a posteriori une réflexion collective autour de pratiques journalistiques. Et ça me paraît très sain. Donc par exemple, pour l'affaire du pont de Ligonnès, je pense que ça aurait été un lieu pour réfléchir à comment ne pas reproduire ce type d'erreur. Qui n'est pas une fake news, faut le rappeler. C'est pas une fabrication d'un mensonge. Mais on a manqué de prudence dans la production de cette information.
Voilà, exactement. Et expliquer de façon également à essayer de regagner une confiance vis-à-vis du public. C'est pour ça qu'il est important que ce conseil soit tripartite. C'est pas de l'entre-soi. C'est pas nous journalistes, entre nous, on va faire nos petites histoires et on va dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Non, le public qui est invité à participer au conseil de déontologie, de façon à ce que tout le monde comprenne bien comment l'information arrive jusqu'au public. Quels sont les canaux de fabrication je dis fabrication, même si le terme...
La fabrique médiatique, hein. C'est-à-dire comme ça que ça s'appelle.
Voilà. Comment cette fabrication se fait et comment le produit arrive. Il arrive par des voies qui sont tracées, puisqu'il y a une déontologie qui existe, le respect des personnes, le contradictoire, enfin tout ce qui s'apprend. Et puis il arrive que on passe outre. Donc il faut corriger, il faut montrer que c'est une erreur.
Mais Alexis Lévrier, c'est précisément un des arguments des détracteurs de ce conseil. J'ai sous les yeux un communiqué signé des SDJ, et donc des sociétés des journalistes et des sociétés des rédacteurs de très, très nombreux médias. Ça va de l'AFP à Challenge, du Figaro à France Info, de LCI à Mediapart, du Parisien à l'Obs, Le Point, TV5 Monde, 20 minutes, etc. Il y en a vraiment beaucoup. Et l'un des arguments, c'est précisément de dire, mais on n'a pas besoin d'un conseil de déontologie parce que nous avons des chartes de déontologie. Nous sommes engagés depuis que la défiance envers les médias de la part de nos lecteurs, de nos auditeurs, etc. s'exprime à ce que nous fassions la transparence sur la fabrique médiatique précisément de ce que nous faisons, le participatif, les médiateurs, les rencontres avec le public se multiplient. Nous nous rendons également compte devant la justice. Donc, à quoi va servir ce conseil? C'est l'un des arguments.
Oui, bien sûr. Il faut rappeler que les journalistes sont déjà soumis à tout un tas de procédures. Alors, il y a le recours en justice qui est possible. Il y a la loi de 1880 encadre les pratiques journalistiques déjà, et elle a été durcie sur bien des aspects, notamment la protection de la vie privée. Donc, et en plus, il y a des chartes, comme vous le rappelez, comme la charte de Munich. Il y a des sociétés au sein de chaque média de journalistes qui vont veiller aussi aux bonnes pratiques. Donc, là, je crois que c'est plutôt un lieu collectif où les journalistes peuvent discuter entre eux et en plus se retrouver indépendants et se retrouver avec le public. Je pense que c'est vraiment comme ça et c'est irréprochable dans la manière dont c'est pensé.
C'est le même problème. Aujourd'hui,
oui. Le problème, et c'est pour ça que je comprends en même temps la réaction de cette vingtaine de rédactions, c'est qu'il y a une histoire, je vous le disais, particulière du journalisme français marquée par la tutelle de l'État, et il y a une histoire aussi singulière de ce quinquennat, des propos d'Emmanuel Macron à l'égard de la presse qui ont été brutaux, clivants. Rappelons-nous au moment de l'affaire Benalla, hein, dans les jardins de la maison de l'Amérique latine, nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité, nous avons un pouvoir médiatique qui se prend pour un pouvoir judiciaire. C'était quelque chose de totalement inédit.
Oui. Il choisit l'insinuation et le dénigrement.
Voilà, et je crois que c'est les journalistes, d'ailleurs dans le papier que vous citiez là, qui est produit par cette vingtaine de sociétés de journalistes, ils se réfèrent à la loi sur les affaires, à la loi sur les fake news. Il y a déjà eu plusieurs tentatives qui ont été interprétées à tort ou à raison, mais à mon avis plutôt à raison qu'à tort, comme des volontés du pouvoir politique de se mêler du sort des journaux et de peut-être de les contrôler. Donc il est logique que la création de ce conseil suscite un certain nombre de résistances.
Oui, parce que parfois ça peut aller dans tous les sens. Alexis Corbière, par exemple, était pour un conseil dans le but de surveiller la mainmise de personnes comme Bernard Arnault sur les unes des journaux. Donc on voit bien que ça n'est pas seulement dans un sens, Kathleen Grosset.
Alors justement, là, à ce moment-là, Corbière voulait réguler la ligne éditoriale d'un journal.
Ça n'est pas le but du conseil.
Ce n'est absolument pas le but du conseil. Encore une fois, nous sommes sur de la déontologie et non pas sur une ligne éditoriale.
Tout à l'heure, Alexis Lévrier disait qu'il serait sans doute très important de regarder ce qui se passe en termes de fonctionnement des réseaux sociaux. Quel regard allez-vous porter sur les réseaux sociaux, Kathleen Grosset, avec ce conseil?
Alors autant, enfin, les réseaux sociaux, c'est pas un acte journalistique. La liberté de parole sur les réseaux sociaux, la prise de parole sur les réseaux sociaux a permis de faire sortir, d'émerger un certain nombre de cas, et c'est très bien. Mais c'est pas un acte journalistique. Nous allons juger d'actes journalistiques.
Moi, c'est bien ça qui m'inquiète. Personne ne se mêle des réseaux sociaux. Personne ne veille pour l'instant à réguler le fonctionnement de ces réseaux sociaux.
C'est sûrement pas le conseil de déontologie journalistique de réguler les réseaux sociaux.
Oui, bien sûr, je comprends très bien, mais le CSA ne peut pas le faire non plus. Alors, il y a aussi une question, c'est comment vous allez, parce qu'il y a une co-régulation. Une co-régulation par le CSA et ce nouveau conseil, donc je ne sais pas comment ça va se faire. Et par ailleurs, personne ne se mêle de ce qui pose, à mon avis, vraiment problème, c'est-à-dire cette fabrique de la haine à grande échelle sur les réseaux sociaux.
Kathleen Grosset.
Je suis d'accord, il y a un problème sur les réseaux sociaux, mais encore une fois, le conseil de déontologie ne peut pas régler le problème des réseaux sociaux. La relation avec le CSA... sera effectivement également à mettre, il va falloir réguler ce problème avec la loi sur l'audiovisuel. Il faut que le conseil de déontologie ait sa place dans la loi audiovisuelle, et il faut que tout, dans l'idéal, il faut que le CSA renvoie vers le conseil de déontologie toutes les questions de déontologie de l'audiovisuel.
Kathleen Grosset, le lancement officiel, c'est lundi, donc à suivre, je pense qu'on en entendra parler. Peut-être que nous referons une fabrique médiatique
avec
sur ce conseil une fois qu'il sera officiellement créé. Merci beaucoup Alexis Lévrier également d'être...
Merci à vous, et tout mon soutien aux grévistes de Radio France. Ils se battent aussi pour la qualité de l'information sur le service public. Leur combat est le nôtre.